Vous écoutez
RMC. RMC, l'interview.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin au lendemain d'un remaniement qui vous a vu élargir votre périmètre. Vous êtes désormais ministre de l'Intérieur, mais également en charge des dossiers en plus de l'Intérieur, des collectivités territoriales et de l'Outre-mer. En gros, il y a deux grands gagnants, hein, Bruno Le Maire et vous, avec des périmètres élargis. Après le fiasco du Stade de France, pourtant, Elisabeth Borne a fait savoir à plusieurs médias, ou en tout cas a sous-entendu au minimum, qu'elle hésitait à vous garder. Comment l'avez-vous convaincue de rester ?
J'ai jamais eu cette discussion avec Mme la Première Ministre. Moi, je veux dire que c'est un grand honneur de rester ministre de l'Intérieur. En général, le ministre de l'Intérieur, il dure un petit peu moins de 2 ans. Je suis très heureux de pouvoir continuer mon travail auprès des femmes et des hommes du ministère de l'Intérieur. Et je ne prends pas ça comme un gain, je prends ça comme des responsabilités supplémentaires. S'occuper des collectivités locales, s'occuper de l'Outre-mer avec Jean-François Carinco et Caroline Cayeux, c'est une grande responsabilité et c'est des difficultés en plus, malheureusement, si j'ose dire.
Et on va y venir d'ailleurs, parce que sur ce point, et notamment sur l'Outre-mer rattaché au ministère de l'Intérieur, ça fait déjà débat, mais je reviens quand même d'un mot sur la question du Stade de France, puisque ça a été véritablement l'un des événements autour de ces élections législatives, avec un véritable fiasco, une forme de désastre. Vous l'avez vous-même reconnu, qu'il y a eu de grands manquements. Est-ce que vous vous dites d'abord que toutes les leçons en ont été tirées? Et deux, est-ce qu'on est prêt pour les Jeux Olympiques?
Alors les Jeux Olympiques et les matchs de football au Stade de France, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce sont certes des grands événements sportifs, mais je pense qu'un événement de water-polo ou un événement de baseball n'est pas tout à fait un match avec deux grandes équipes de Ligue des Champions de football.
Mais c'est moins les JO?
C'est différent. D'abord, il y a beaucoup plus de spectateurs qui restent beaucoup plus longtemps sur le sol national, dans beaucoup d'endroits en France, et dans des moments de tension très différents que des matchs de football, de Ligue des Champions ou de Coupe du Monde de football.
Mais la vulnérabilité des touristes étrangers, c'est aussi cette question-là quand même.
Il y a la question de la délinquance. S'il y a bien un regret à avoir au Stade de France, c'est le fait de ne pas avoir tapé assez sur la délinquance. Ça, je l'ai effectivement reconnu. Et donc, on a mis désormais des moyens extrêmement importants et des consignes extrêmement fermes. Il y a eu 3 matchs au Stade de France depuis et ils se sont passés de manière admirable, en tout cas le plus admirable possible. J'ai triplé les effectifs de police à Saint-Denis pour lutter contre cette délinquance. Donc j'en ai tiré des conclusions, effectivement. Après, il y a d'autres sujets pour les Jeux Olympiques. Il y a la question de la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Il y a la question de la lutte contre le terrorisme. Il y a la question du cyber. Il y a eu 4 milliards d'attaques cyber aux Jeux de Tokyo. Ce sont des questions qui se posent pour les Jeux Olympiques à Paris, qui ne sont pas tout à fait celles de l'ordre public lors d'un match de finale de Ligue des Champions au Stade de France.
Le préfet allemand, il peut rester ?
Le préfet allemand a toute ma confiance, comme l'ensemble de la préfecture de police. Après, dans l'organisation de la préfecture de police et de la façon dont on organise un certain nombre de choses, le préfet allemand lui-même m'a fait des recommandations et j'attends le rapport du Sénat. J'en ai évoqué avec les sénateurs des éléments, voilà quelques heures encore, pour pouvoir tirer toutes les conclusions, effectivement, dans l'organisation de la préfecture.
Il a toute votre confiance, vous n'avez jamais douté, vous vous êtes jamais dit, il y a un moment quand même où la responsabilité ou alors l'organisation a failli.
Non mais c'est sûr que l'organisation elle a failli ce jour-là, sinon il n'y aurait pas les difficultés que nous avons connues, même s'il n'y a pas eu de morts ni de blessés graves, je voudrais ici le rappeler. Mais ça ne vient pas que du préfet de police, le ministre de l'Intérieur à sa part, comme l'ensemble de la chaîne de commandement. Donc on en tirera désormais sereinement toutes les conclusions. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne restera pas dans la même situation dans l'organisation des matchs, notamment des matchs de football.
Le préfet allemand a toute votre confiance. La confiance, c'est aussi une des questions qui se posera demain, mais il n'y aura pas de vote de confiance. Après le discours d'Elisabeth Borne face aux députés, vous qui êtes peut-être un de ceux qui connaît le mieux la politique au sein de ce gouvernement, où de nombreux membres du gouvernement sont plutôt novices, est-ce que vous ne dites pas que ça commence mal quand même ?
Ce qui ne va pas très bien pour le gouvernement, bien sûr, c'est de ne pas avoir de majorité absolue. On a une majorité relative, voulue par les Français que le président de la République continue son action, mais tempérée par des groupes d'opposition plus ou moins constructifs. Et je pense que d'abord, la Première ministre a eu raison de consulter ces groupes politiques d'opposition pour voir s'ils étaient plus ou moins constructifs. Aucun d'entre eux, de ce que j'en ai compris, dans ce qu'elle a rendu compte au Conseil ministre de ces consultations, n'a souhaité nous aider ou faire une coalition. Franchement, c'est très regrettable. Mais il faut en tirer les conclusions telles que les ont voulu les Français. Donc il est tout à fait normal, désormais, que la Première ministre puisse présenter texte par texte le pouvoir d'achat très bientôt au Parlement, la sécurité et l'immigration en ce qui me concerne, et voir si les oppositions, et notamment le groupe DLR, ne fait que parler ou veut bien agir pour le bien des Français. Et moi, je leur tends une nouvelle fois la main, notamment sur les textes qui me concernent, sur la sécurité et l'immigration. Il n'y a pas de raison de ne pas trouver un compromis sur la sécurité, sur les moyens de la sécurité, sur l'immigration, sur l'outre-mer avec la Nouvelle-Calédonie, sur la Corse, sur le Grand Paris que je vais relancer dans mes nouvelles fonctions aujourd'hui. Il n'y a pas d'idée très profondément différente, je crois, entre le groupe DLR et le nôtre. Évidemment, il y aura des compromis à faire, comme dans toute démocratie, mais je pense qu'on peut aller vers ce chemin.
C'est uniquement de leur responsabilité de ne pas être rentrés au gouvernement. C'est eux qui ont refusé, ou est-ce que c'est vous qui n'avez pas fait non plus les compromis nécessaires ?
Non, mais ils ont souhaité clairement ne pas rentrer, je pense qu'ils m'ont dit ex voto, dans le gouvernement.
Vous disiez pourtant, on peut gouverner ensemble. Hein.
Je le pense. Je pense que d'ailleurs, le gouvernement dure 5 ans, hein, donc on n'est pas. Ça peut venir peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est finalement pas la composition gouvernementale, mais est-ce que nous sommes capables, nous, de tendre la main aux oppositions ? Il y a des gens à gauche capables de construire avec nous, il y a des gens à droite capables de construire avec nous, et notamment au Sénat. Est-ce que si on présente des textes pleins de bon sens et avec l'esprit de compromis, ce qui est le nôtre aujourd'hui, est-ce que cette main tendue sera serrée par nos adversaires, qui ne sont pas nos ennemis ? Voilà. Le Front National et la France Insoumise est notre ennemi. Les LR ou les socialistes sont nos adversaires. Et je pense qu'en démocratie, ça compte, cette distinction.
RN et LFI sont vos ennemis. Pour le coup, vous utilisez le mot ennemi.
Ceux des ennemis, bien sûr, moi je les respecte en tant que parlementaire. Ils voteront ce qu'ils souhaitent. Et tant mieux s'ils votent les textes du gouvernement. Mais on n'a pas à discuter, à négocier avec le Front National ou avec la France Insoumise.
Le RN qui se donne beaucoup de mal pour tenter de montrer qu'ils sont prêts à, en tout cas, ne pas bloquer le gouvernement. Ils ont déjà annoncé qu'ils ne signeraient pas la motion de censure de la NUPES demain.
Mais nous verrons bien. Malheureusement, on a vu déjà que sur l'IVG, les mauvais démons du Front National remontaient à la surface. Donc, vous savez, il n'y a pas encore eu une séance à l'Assemblée nationale où le gouvernement a proposé un seul texte. Donc ne faisons pas le procès avant de voir arriver le débat. Ne crions pas avant d'aller chez le dentiste. Voilà. Pardon pour les dentistes, évidemment, il y en a des formidables et qui ne font pas mal du tout. Donc voyons la séance à l'Assemblée nationale, voyons les textes que propose la Première ministre. Et sur ces textes, plein de bon sens et avec l'esprit de compromis du gouvernement, je comprends que les oppositions aient envie de voir si vraiment on a l'esprit de compromis. Donc il faut qu'on soit humble également. Moi, en tout cas, c'est avec cette humilité que j'irai voir les députés et les sénateurs des oppositions pour construire avec eux les textes pour la sécurité de demain. Personne, je crois, ne comprendrait, à commencer par leurs électeurs, qu'ils refuseraient cette main tendue.
Gérald Darmanin, les Outre-mer sont désormais rattachés à votre ministère. Est-ce que ça veut dire que la question des Outre-mer, c'est une question de sécurité ?
Non, mais le ministère de l'Intérieur n'est pas le ministère de la sécurité. Il n'est pas seulement le ministère de la sécurité. C'est le ministère des collectivités locales. Et c'est le ministère des dotations aux collectivités locales. Moi, je connais très bien les collectivités locales d'outre-mer, pour avoir été ministre des comptes publics pendant 3 ans. Elles ont des besoins criants d'amélioration de leurs comptes. Et le ministère de l'Intérieur, qui n'est pas que le ministère de la Sécurité, va les aider. Il y a des discussions institutionnelles extrêmement importantes. Le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère des institutions et des élections. La Nouvelle-Calédonie, il faut désormais savoir ce qu'on en tire comme conclusion après ce troisième référendum.
Je vais vous poser la question dans un instant sur la Nouvelle-Calédonie. Mais quand même, qu'est-ce que vous répondez aux critiques qui sont faites ? On entend par exemple la députée LFI Elsa Fossignon qui a ces mots. Elle dit « Comment ne pas voir le mépris et l'outrage, la référence coloniale ?»
Non, mais c'est excessif et malheureusement c'est encore la France insoumise. Et c'est pas à moi qu'il faut invoquer ce mot de colonial. Bon. Non,
qu'est-ce que vous voulez dire ?
Le grand amour de ma propre construction personnelle, je crois que c'est une insulte qui est un petit peu décalée. Non, je veux dire qu'aujourd'hui, les Outre-mer ont besoin d'être profondément aidés, et je crois par un ministère fort. Pas par un ministre fort, par un ministère fort, voilà. Et aujourd'hui, il y a 2 ministres qui s'occupent des Outre-mer. Jean-François Carraco, qui est un homme d'État, qui a servi à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, et qui sera un globe-trotteur, au rendez-vous notamment contre la vie chère. Mais quand Jean-François Carraco dès hier me dit « Nous allons ensemble appeler le patron de CMA-CGM pour que les prix soient moins chers à la réunion où nous allons jeudi avec lui, par exemple, pour éviter de supprimer des rotations, des arrivées de matières premières », eh ben, nous avons tous constaté ensemble que, malgré les qualités des ministres des Outre-mer précédents, et je voudrais saluer Sébastien Lecornu notamment, eh ben, peut-être que le patron de CMA-CGM écoute davantage un ministère avec lequel il a d'autres discussions.
L'autorité sera plus incarnée, vous voulez dire, face à eux.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas voir dans le ministère de l'Intérieur désormais que le ministère de la Sécurité. C'est le ministère de la protection des Français au sens large. Et aujourd'hui, je me sens un des ministres qui protège les Français, un grand ministère social qui est le ministère de l'Intérieur.
Quel avenir pour la Nouvelle-Calédonie ?
J'y vais le 26 juillet prochain avec Jean-François Carraco, plusieurs jours, pour écouter, parce qu'avant tout, c'est avec humilité et respect que je veux voir les Calédoniens. Je veux entendre les questions qui se posent. Alors, bien sûr, de la part de ceux qui étaient ce qu'on appelle loyalistes, c'est-à-dire qui voulaient rester français, mais aussi de la part des Kanaks. Et je prendrai tout mon temps, à la demande du président de la République et de la Première ministre, pour voir comment nous pouvons bâtir ensemble l'avenir institutionnel de l'île. Donc ce n'est pas maintenant que je vais faire ce débat. Si vous m'invitez au lendemain de ce voyage, je viendrai bien volontiers. Ce n'est pas la première fois que j'irai en Nouvelle-Calédonie, j'y suis déjà allé. Mais je pense que le grand travail de paix qui a été fait depuis Michel Rocard, en passant par Manuel Valls, pour arriver au travail qu'a fait Sébastien Lecornu, Jean Castex et Édouard Philippe, peut nous permettre aujourd'hui de discuter de l'avenir des Néo-Calédoniens.
J'aimerais vous reposer la question pour la Corse. Quel avenir pour la Corse ? Vous aviez ouvert des discussions, vous aviez même prononcé le mot d'autonomie juste avant les élections, et puis pouf, ça s'est arrêté.
Alors je vois.
On reprend où ?
Entre-temps, il y a eu des élections, et entre-temps, y compris en Corse, entre-temps, il y a eu des remaniements. Donc je vois cette semaine le président Simeone, avec lequel j'ai tenu des contacts directs, et j'irai en Corse moi-même. Sans doute fin juillet, une date à trouver avec le président Simeone, pour pouvoir commencer ces discussions qui sont conformes à l'idée qu'on s'était donnée d'autonomie dans la Constitution de la République française.
Quand vous allez en Corse, vous parlez corse. Vous avez une manière de prononcer Simeone sans dire le i qui est assez appuyé.
Et moi, j'aime bien que quand on vient dans le Nord, on parle ch'timi un petit peu. C'est toujours fait. Ça me fait plaisir quand les gens disent pas l'esquin, mais l'équin pour les habitants de l'équin. Vous voyez, donc je respecte chacune des identités de notre République. Et j'aime bien qu'on respecte la mienne. Donc j'ai le profond respect pour les Corses et pour leur culture.
Gérald de Darmanin, la rapporteuse des droits. Donne aujourd'hui son rapport annuel et c'est le ministère de l'Intérieur qui est quand même le plus ciblé. Elle parle notamment de la dégradation de l'accès aux services publics et en particulier du manque de créneaux de rendez-vous dans les services des étrangers pour obtenir un titre de séjour, dans les services qui délivrent les passeports. Elle parle d'une véritable dégradation, voire même d'un divorce qui est en train de se consommer entre les usagers et les services publics. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Je ne sais pas s'il y a un divorce, mais le constat que fait la défenseure des droits, je l'ai fait depuis longtemps comme maire et maintenant comme ministre. Et donc, c'est justement ce qu'on essaye de réparer. D'abord, il y a eu trop dans l'administration de volonté de numérisation, de passer par des répondeurs et finalement de retirer le contact humain avec les fonctionnaires de la République. Jean-Paul Delevoye, lorsqu'il était médiateur de la République, avait déjà évoqué ça.
Elle appuie là-dessus, hein, Clavadon.
Oui,
elle dit aujourd'hui, il faut remettre des humains.
Elle a raison. La Cour des comptes a d'ailleurs montré qu'il manquait beaucoup d'emplois publics au ministère de l'Intérieur. C'est un rapport que j'avais demandé au premier président de la Cour des comptes, qui est désormais public. Et je suis le premier des ministres de l'Intérieur, grâce à Jean Castex à l'époque, président de la République, à arrêter la diminution de nombre de fonctionnaires dans les préfectures et sous-préfectures. Désormais, il faut réaugmenter ce nombre de ces agents, et notamment en réorganisant le service. Et c'est sûr que pour les accès, alors soit au passeport et aux pièces d'identité qui passent par les mairies, et dont on doit avoir des discussions, et je remercie l'Association des maires de France pour sa vision constructive pendant cette période particulière où les Français ont dû renouveler leurs pièces d'identité, alors que pendant un an et demi, pendant le Covid, elles se sont éteintes dans leur
parcours
validité.
Parcours du combattant, hein, vous le savez.
Mais je sais très bien, on a d'ailleurs diminué de 15 jours le délai d'attente, mais c'est beaucoup trop long encore. Et vous avez parfaitement raison. Donc ça, c'est le premier point.
Je ne sais pas comment font notamment les personnes âgées pour trouver un rendez-vous. Il faut cliquer 1000 fois
désormais,
pour tenter d'en trouver un.
Alors c'est, excusez-moi, pas tout à fait vrai aujourd'hui. D'abord, il y a eu beaucoup d'employés qui étaient en télétravail, qui sont revenus au travail. Au sens physique du terme, c'est une très bonne chose. Christophe Béchu, lorsqu'il était ministre délégué, a mis en place un fichier commun contre une seule prise de rendez-vous, y compris téléphonique, et pas simplement numérique désormais. Et on a augmenté très fortement le nombre de personnes et de moyens pour accélérer ces pièces d'identité. Mais c'est vrai qu'il y a encore un délai d'attente très long qui est dû au Covid, puisque lorsqu'on était en Covid, ces services étaient fermés et votre pièce d'identité, vous ne voyagez pas. C'est éteinte sans que vous l'ayez renouvelé. Sur les étrangers, la défenseur des droits a là aussi raison. Nous allons revoir intégralement la façon dont les préfectures fonctionnent, notamment en donnant accès pour les rendez-vous des étrangers qu'on doit accueillir plus dignement. Et c'est le travail que je vais faire dans les prochaines semaines.
Claire Hédon, elle insiste aussi sur la question du contrôle de police au faciès. Elle dit qu'il y a peut-être trop de contrôle et elle donne l'exemple de la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, quand il y a un contrôle, il faut un récépissé et on y compte du coup 700 000 contrôles par an. En France, il n'y a donc pas de récépissé et on y compte entre 6 et 12 millions de contrôles par an, c'est-à-dire 10 à 20 fois de plus que chez nos voisins anglais. Elle l'encourage à ce qu'il y ait au minimum une tentative de récépissé, d'expérimenter ça. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je suis en désaccord avec la défenseur des droits. Moi d'abord, je fais confiance a priori aux policiers et aux gendarmes. Voilà, j'ai confiance dans les policiers et les gendarmes de la République qui sont bien formés et qui agissent je voudrais rappeler à tout le monde, sous l'autorité judiciaire. Lorsque vous faites un contrôle d'identité, lorsque vous êtes policier ou gendarme, vous le faites parce que soit vous êtes officier de police judiciaire, soit parce qu'on vous autorise à le faire, notamment parce que le procureur de la République vient à considérer qu'autour de la gare Lille-Flandre, par exemple, vous pouvez le faire. Voilà. Donc, c'est toujours sous l'autorité de la justice qu'agissent les policiers et les gendarmes. Donc, je pense qu'il faut arrêter, et ça, c'est vraiment très important, la suspicion générale sur les policiers et les gendarmes. Malheureusement, que disent les policiers encore hier soir à Hermont, dans le Val-d'Oise où j'étais auprès d'eux, c'est que leur métier est difficile, ils ont des moyens supplémentaires, parfois des effectifs supplémentaires, ils ont confiance évidemment dans leur action, ils trouvent que c'est utile, mais ils disent, mais voilà, monsieur le ministre, la parole du voleur quasiment aujourd'hui vaut la parole du policier. Ben ça, faut arrêter. La parole du policier, elle est supérieure à la parole du voleur. Quand le policier fait une bêtise, il faut évidemment le sanctionner, et je ne suis pas le dernier à le faire, mais a priori, le policier et le gendarme, parce qu'ils portent l'uniforme de la République, on doit leur faire confiance.
Mais vous êtes ministre de l'Intérieur depuis combien d'années maintenant ?
Mais c'est pour ça que je n'ai jamais voulu le récipicé. Ça m'a été posé des dizaines de fois, cette question. Voilà, le récipicé, c'est, je crois, une défiance vis-à-vis des policiers et des gendarmes. Et je veux dire une nouvelle fois que lorsqu'on fait des contrôles d'identité, on le fait en vertu du code de procédure pénale et on le fait sous l'autorité judiciaire.
Est-ce que vous êtes exemplaire, Gérald Darmanin ?
Ça dépend sur quoi ?
Quelle est votre question ? Sur les relations notamment avec les femmes. Elisabeth Borne, je la cite dans le L, c'est une interview à paraître aujourd'hui. Elle dit « Je pense que l'on n'attend pas simplement des hommes politiques ou des responsables qu'ils ne soient pas pénalement répréhensibles. On attend d'eux qu'ils soient exemplaires. Il faut que chacun prenne conscience que le monde a changé et heureusement, y compris dans le champ de ce qui n'est pas pénalement répréhensible, il y a des comportements que l'on n'a pas envie de voir. »
Oui, sans doute, la Première ministre a raison. Après, moi, je suis très attaché à la présomption d'innocence. Je pense qu'il ne faut pas, et ça vaut pour tout le monde, y compris pour M. Coquerel, dont je trouve que le procès qui lui est intenté est sans doute très dur à vivre pour lui. S'il est responsable pénalement, il sera condamné. Mais M. Coquerel est, je crois, un adversaire, peut-être un ennemi. Il ne me serre pas souvent la main. Il est même très dur avec moi depuis 5 ans. Mais je veux dire que même M. Mélenchon l'a dit d'ailleurs. Que ce genre de procès public est parfois si gênant. Donc notre difficulté, je comprends la Première ministre, c'est à la fois d'écouter la parole des femmes, évidemment, et en tant que ministre de l'Intérieur, je n'ai pas la souligner hier, la passion de pouvoir, on y met beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens, mais les procès ne se rendent pas sur Twitter. Donc est-ce que je suis exemplaire ? Ben, faudrait le demander à mon épouse. Ce qui est certain, c'est qu'on a aujourd'hui un équilibre subtil, c'est vrai, à trouver entre la présomption d'innocence qui est la garantie de notre démocratie à toutes et tous, et en même temps, l'écoute naturelle de ceux qui ont à se plaindre. Voilà. Donc, on est rarement juge de sa propre exemplarité. La Première ministre et le Président de la République ont demandé à Damien Abad de ne plus faire partie de ce gouvernement.
C'est évidemment à ce propos-là, notamment, qu'elle a été interviewée par le journal Elle, ou qu'elle a accepté en tout cas de répondre à ces questions-là. Pour vous, Damien Abad n'avait plus sa place au gouvernement.
Moi, j'ai pas commenté cela, d'abord parce que je suis pas à la place de Damien Abad, je suis pas à la place d'Éric Coquerel, je suis pas à la place de la Première ministre. Ils ont eu leur discussion. Ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un certain temps, y compris pour les personnes qui sont accusées, la pression est très forte et parfois empêche de faire son travail.
Elle l'a été sur vous.
Oui, mais pour des raisons différentes. Moi, je constate que j'ai eu 4 décisions de justice de suite, depuis 5 ans, hein, qui ont été favorables à ma présomption d'innocence.
Mais précisément, Elisabeth Borne ne parle pas de décision de justice. Elle parle de comportement exemplaire et elle dit que les choses ont changé. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez ?
J'ai compris aussi que M. Coquerel ou M. Abad ont toujours nié les comportements qu'on leur prêtait. Qui dit vrai ? Bon, la justice le dira très certainement et ça prend du temps, malheureusement parfois, de dire la vérité. En tout cas, je comprends la difficulté auquel nous sommes confrontés, parce que la parole des femmes est à entendre. Il n'y a pas que la parole des femmes, il y a la parole des enfants aussi. Voilà, il y a d'autres, il y a la parole des hommes dans certains cas également. Et je pense qu'il ne faut pas non plus galvauder la présomption d'innocence. Si les procès se font toujours dans les médias, mais surtout sur les réseaux sociaux, alors il n'y a plus de justice.
Mais si je vous repose la question, Gérald Darmanin, c'est parce que votre nom régulièrement ressort dans la bouche des féministes ou même des oppositions. Oui. Ce matin, je recevais un des députés de la France Insoumise, Louis Boyard, sur RMC, qui, je l'interrogeais sur Damien Abad, et lui me répondait, Gérald Darmanin, vous avez reconnu vous-même avoir eu des relations sexuelles avec des femmes qui venaient vous demander des services. Est-ce que c'est des choses que vous ne feriez plus aujourd'hui ?
Non, d'abord, je trouve que la comparaison est quand même très... très, très déplacé, si vous me le permettez. Parce
c'est
que...
la comparaison qu'a fait Lou Bayard, oui, par exemple, ce matin, et qu'ils ne manqueront pas de faire dans l'Assemblée, vous le savez très bien.
Mais que les oppositions s'opposent, vous savez, depuis que je fais de la politique, malheureusement, j'ai tout vu. Moi, je me fais traiter de sale arabe par des gens qui viennent pas très loin du Front National, des féministes, je trouve un peu radicales, sont dans la diffamation que je fais d'ailleurs condamner assez régulièrement. C'est l'opposition et c'est la vie publique. La vie publique, elle est faite désormais d'extrême violence. D'ailleurs, il ne faudrait pas s'étonner qu'un certain nombre de personnes ne veulent plus être ministre ou faire plus de politique. Parce que, vous savez, quand vous rentrez chez vous, vous avez votre épouse, votre maman, vos enfants, et que vous entendez tout ce que vous voyez à la télévision ou sur les réseaux sociaux, vous-même, ça vous touche, j'imagine, pour votre propre personne. Ça vous demandez
mais
si
là,
ça vaut le coup de jouer l'intérêt
sociaux.
Général.
Vous-même avez reconnu, non, ce que je veux dire, est-ce que aujourd'hui,
Madame, ne faites pas le procès.
Avec le recul, vous vous dites, je ne le ferai plus.
Non, mais ce qui est incroyable, c'est que vous ne dites pas qu'il y a eu 4 décisions de justice.
Si, au contraire, j'ai dit, mais je reprends les mots d'Elisabeth Borne qui dit, il ne s'agit pas de questions pénalement répréhensibles, mais de comportement.
Alors, ce qui est sûr, c'est que je n'aurai pas d'autres relations sexuelles indépendamment qu'avec mon épouse. Ça, si c'est votre question morale, si on en arrivait à cette question morale, et si
pour le coup de la question de la fidélité ou non, c'est pas là-dessus, hein.
Madame,
mais c'est très clair, c'est important.
Oui, je me permets de vous répondre. Si on en est à ce niveau désormais de déballage, oui, évidemment. Pas avoir de relations sexuelles en dehors que mon épouse, oui, je vous le dis. C'est tout ce que je voulais savoir. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est les trompettes de la renommée de Georges Brassens, en fait, la société d'aujourd'hui. Hein. On vivait tranquille à l'écart sur la place publique, peut-être trop tranquille, et maintenant, peut-être que le jeu n'en vaut pas la chandelle, puisque par définition... voici le genre de questions qu'on pose à des femmes et hommes politiques. Peut-être est-ce normal d'ailleurs si je viens vous voir. Je sais à quoi je m'attends. Mais quand même, vous devriez peut-être aussi, puisque c'est mon rôle de le dire, et encore une fois, M. Mélenchon qui le dit, c'est assez extraordinaire quand même. Hein, ça vaut pour les uns, pas pour les autres. Il y a deux types de poids de mesure.
Je reprends les mots de la Première ministre. Non, mais
Il y a deux poids de mesure aussi. Mmh. Et voyez, je pense que la présomption d'innocence, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est quand même le fondement d'une démocratie. Voilà. Et ça vaut pour tout le monde. Et il se peut qu'il y ait des gens qui soient accusés, qui soient innocents. C'est possible. Et que ce n'est pas l'Inquisition ou Torquemada. Donc, il y a, heureusement, une procédure de justice qui est bien faite. Voilà. Il y a d'autres personnes qui sont au gouvernement et qui sont accusées. Vous l'aurez constaté. Et il y a des personnes qui sont dans l'opposition et qui sont accusées. Et il y a des journalistes qui sont à des antennes et qui sont accusés. Et moi, je ne suis pas coupeur de tête.
Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, désormais en charge des dossiers, en plus de l'intérieur des collectivités territoriales et de l'Outre-mer. Merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h54.